Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on écoute sur son ordi ? Focus Tor, évidemment. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Nous voilà de retour, nous aussi, avec l'émission de débat culturel du magazine Focus Vif, où on papote de ce dont tout le monde parle dans la presse et dans la rue. Au programme aujourd'hui, The Perks of Being a Wallflower, ça c'est pour le cinéma, la série Les Revenants, le dernier roman de Jeffrey Eugenides, le roman du mariage, et l'album du groupe français Aline qui s'appelle Regarde le ciel. Pour en dire du mal ou du bien, qui sait, une équipe inédite. Aujourd'hui, une équipe de hipsters, glamour, sexy, composée de celles dont la beauté de la voix les dispute à celle de la peau de lait. C'est notre Charlotte Gainsbourg à nous, Isaline Parisis.
Bonjour.
Qui est aussi spécialiste de la littérature dans la rédaction, puisqu'elle n'est pas que belle. Il y a Laurent Houbrex, le charme de la force tranquille. C'est notre
Salut
vieux
Myriam.
Beau à nous. Hein, vous avez déjà... Tu as déjà, je crois. Voilà, tu vois, je te vous vois.
Non, ça quoi, pas, ça,
37
non,
ans, non. 38 ans, déjà comme...
ça on en reparlera après.
Et Laurent, c'est le chef des pages musiques. Absolument. Bienvenue aussi à Nicolas Clément, dont le sexe appeal réside essentiellement dans les poils du torse et la brutalité du discours.
Salut Myriam.
Nicolas qui écrit d'habitude sur le cinéma et la BD. Et puis, on accueille un petit nouveau. Marchand de champagne, de paillettes et de rêves érotiques à mi-temps. Journaliste télé, l'autre moitié, c'est Guy Verstraten. Bonjour Guy.
Bonjour Myriam. Quelle joie.
Sois le bienvenu. Escale du jour avec une série, une fois n'est pas coutume, puisque cette série-là, c'est un événement comme il y en a peu dans une année. Les Revenants, c'est français, ça a été diffusé sur Canal+ en France et forcément sur BTV chez nous. Ça vient de sortir en DVD en Belgique et c'est un phénomène. La presse hexagonale est unanime, il s'agit d'un chef-d'œuvre, la meilleure série française de tous les temps, le renouveau du genre, qui rivalise avec les meilleures productions américaines. Les Inrocks parlent carrément d'expériences mystique et divine. Oui, rien que ça. Alors, je vais vous la pitcher très rapidement. Dans un bled de montagne en Haute-Savoie, des personnes mortes depuis plusieurs années, parfois 4, parfois 30, font leur réapparition. Elles rentrent chez elles, comme si de rien n'était, à la grande stupéfaction de leur entourage. Alors, certaines reprennent leur vie là où elles l'ont laissée, et d'autres n'y parviennent pas parce qu'en fait, trop d'eau a coulé sous les ponts. Voilà, c'est donc ça, le pitch des Revenants. Il faut signaler qu'Emmanuel Carrère a co-scénarisé les premiers épisodes, que Mogwai signe la musique et que le casting d'acteurs est lui aussi de très haut vol. On y retrouve notamment Clotilde Esme, Anne Consigny, Guillaume Guix et Grégory Gadebois notamment. Joli générique pour une série qui me laisse quand même très perplexe. Alors moi, j'ai trouvé extrêmement mal joué, très mal dialogué. J'ai pas cru une seconde à ces personnages, j'avais l'impression de voir des acteurs qui jouent à la comédie en recyclant tous les clichés du genre, parfois jusqu'à la grotesquerie, mais au fur et à mesure que l'intrigue déroule son fil et se complexifie, si on est un tout petit peu indulgent, on peut se laisser emporter par cette histoire de mort-vivant, parce que c'est à ça la force et le culot de cette série. Elle ne dévoile pas ses cartes tout de suite et prend le temps de ferrer le téléspectateur. Bref, je me demande ce que les journalistes français ont fumé pour crier au génie, mais il y a quand même des choses à prendre chez ces Revenants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nicolas Clément.
Ben oui, tu disais qu'elle ne dévoile pas tout de suite ses cartes. Moi, j'ai tout vu et j'attends toujours qu'elle en dévoile un petit peu. Donc j'en ai pensé que la presse française était effectivement très chauvine. Ça fait 5 ans, j'ai l'impression qu'on nous dit chaque année, enfin, la fiction télé hexagonale se réveille, et à chaque fois avec une série qui, en fait, ne rivalise pas du tout, je trouve, en termes de qualité, avec notamment les modèles anglo-saxons. Le problème de la série, je trouve, c'est que ça ressemble à beaucoup de choses, et au final, ça ne ressemble à rien. Mm-hmm. Le pitch de la série, donc, c'est que des morts réapparaissent mystérieusement. Donc dans
comme
un
dans les 4400, en fait.
Exactement, ouais, c'est le pitch des 4400, donc cette série américaine qui était produite par Coppola, je pense, au début des années 2000. Ça se passe dans un bled de montagne, comme tu disais, avec des gens qui ont tous un petit peu un secret, comme ça, hein, qui ne vont pas dévoiler tout de suite, parce que sinon, il n'y a plus de série. Et ça, c'est un petit peu Twin Peaks, quand même. Enfin, c'est du sous-Twin Peaks. presque chaque épisode commence avec la mort d'un personnage. Ça, c'est très Six Feet Under. On a confié la bande-son de la série à un groupe de post-rock, ici, donc les Écossais de Mogwai.
Qu'est-ce que t'en penses de cette bande-son? Moi, je trouve ça assez mauvais. Ouais.
C'est vrai que ça fout un peu le Shining, mais en même temps, ça va encore, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'était une idée qu'il y avait dans une série américaine qui s'appelait Friday Night Lights, où ils avaient fait appel à Explosion in the Sky, donc un autre groupe de post-rock. Et j'ai l'impression qu'au final, la série pompe beaucoup justement sur des modèles américains comme ça. Alors, je préfère qu'ils pompent sur des séries américaines de ce genre-là que sur des feuilletons allemands des années 80, par exemple. Mais c'est vrai qu'au final, on a l'impression que ça ressemble un peu à une sorte de créature de Frankenstein mal rabiboché, comme ça. On voit les coutures et j'ai l'impression que ça ne raconte rien. C'est lent, c'est chiant, il se passe rien. Alors, c'est vrai qu'il y a un beau casting, c'est bien fait esthétiquement. Ça ressemble un peu à une pub EDF, comme ça, avec les lumières.
C'est vrai,
qui s'allument, qui s'éteignent.
Les barrages électriques.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas vilain, c'est vrai qu'il y a un très beau casting. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'on a dit aux acteurs qu'ils devaient jouer les bêtudes. Donc, ils sont toujours hébétés, c'est-à-dire que. Ils ne disent rien, ils regardent dans le vide, ils ont l'air tristes. Il y a des épisodes qui se déroulent comme ça, donc il y a 8 épisodes de 50 minutes, comme ça, où les gens regardent dans le vide, ne disent rien.
Et Anne Consigny parle toujours très bas, même quand elle dit « tu fais un sandwich ».
Oui. Oui, voilà, c'est vrai que c'est très premier degré aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans cette série. Donc je ne suis pas du tout convaincu, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un côté un peu plagiat comme ça, où on a pris plein de morceaux de séries qui existaient déjà pour en faire une autre. Et, par contre, c'est adapté d'un film que je n'ai pas vu, hein, un film français qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait « Les Revenants ». Mais qui a très bien pu aussi s'inspirer de trucs déjà existants. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas matière à faire une série télé, quoi. Ici, après 8 épisodes, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et alors, il y a une sorte de finale qui n'en est pas un, où on nous annonce une saison 2, j'imagine, de manière très cliché. Et je me demande bien ce qu'ils vont raconter dans cette saison. Donc, c'est une série d'ambiance, j'ai envie de dire. Mais en même temps, j'attends toujours une histoire.
Guy Verstraten.
Oui, absolument. Non, moi je te trouve particulièrement dur avec l'interprétation. Bon, je trouve que c'est globalement juste dans l'interprétation, mais ils ont
alors
pas grand-chose.
Les dialogues, personne ne parle comme ça. Bien mon capitaine. Oui mon gars. T'as jamais remarqué qu'ils disent tout le temps bien mon capitaine.
Parce que c'est un super. Tu fréquentes souvent des gendarmes.
À la police. Des Alpes.
Moi pas. Donc j'ignore comment parlent les gendarmes dans les Alpes. Mais bon, c'est vrai qu'Anne Consigny effectivement est un petit peu dans son rôle toujours terrorisé de la vie. Mais bon, globalement, je trouve que c'est plutôt juste. Simplement, c'est absolument chiant, quoi. C'est lourd, c'est long. C'est... Moi, j'ai vu la quasi-totalité des épisodes, mais il n'y a jamais une fin d'un épisode où je me suis dit il faut absolument que je regarde ce qui se passe après. Parce que fondamentalement, même pendant les épisodes, j'avais toujours envie de faire quelque chose d'autre, d'aller, je sais pas, faire autre chose en tout cas. Donc oui, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'esthétiquement, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment assez beau. Donc la photo est quand même pas mal pour une série française. Et justement, en arrivant dans cette pièce avec notre cher Nicolas Clément ici présent, on se disait, enfin lui me disait plutôt que c'est toujours le côté oui mais pour une série française, comme
oui,
si c'était
ça.
Une excuse effectivement.
Comme un enfant qui a fait un beau dessin, on lui dit que c'est beau, mais c'est parce qu'il a 2 ans que c'est beau.
Tout à fait. c'est vrai.
Est-ce qu'il ne joue pas aussi avec ses références par exemple, il y a le café dans lequel le bar dans lequel se passe une partie d'une intrigue, c'est le Lake Pub, enfin c'est un nom anglais, il y a une ambiance complètement redneck comme ça.
Oui, absolument.
Et je pense que c'est aussi voulu de créer à la fois cette référence à l'univers américain des séries, et puis en même temps essayer d'avoir sa propre identité en étant long et chiant, peut-être.
Ouais.
C'est peut-être la caractéristique.
Quand je dis long et chiant, c'est vrai que bon, j'exagère un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas passionnant, c'est pas thrilling, c'est pas thrilling. It's not thrilling.
Mais les premiers épisodes sont très psychologiques, par exemple. On est plus dans l'intrigue psychologique et moi, c'est ça que je trouve intéressant.
L'intrigue psychologique, en même temps, c'est jamais que des gens qui reviennent après une longue absence.
Oui, mais ça pose plein de questions. Oui, mais les questions que l'enjeu narratif pose, entre guillemets, moi, je
trouve plutôt
intéressante. C'est justement, est-ce que revoir ses morts, finalement, est-ce qu'on le désire tant que ça, quand ils reviennent, est-ce que ça pose pas plus de problèmes qu'autre chose? Quand il y a un moment, un des personnages dit aussi, finalement, quand sait-on si on est mort ou pas? Enfin, voilà, ce genre de...
Tout à fait, mais tu trouves qu'ils
question
vont
vraiment... Question la caverne de Platon et tout ça. Enfin, je
non, c'est
y a
vrai,
plein
mais
de...
est-ce qu'ils vont vraiment au bout de l'idée? C'est ça, c'est ça qui me pose question. Je suis pas certain qu'ils aillent au bout de... Au bout... C'est, vrai, c'est une bonne idée, l'idée de dire, voilà, il y a des morts qui viennent et on fait comme, quelque part comme si c'était un moment ou un autre, ça devient naturel, assez rapidement d'ailleurs. Ça prend pas 8 plombes pour que ça devienne accepté par tout le monde, ce qui est plutôt une bonne idée. Mais par contre, effectivement, ça pose un tas de questions métaphysiques, etc. Je trouve qu'ils effleurent plus qu'autre chose, quoi. Et c'est ça un peu qui m'a dérangé aussi, c'est que non seulement l'intrigue n'est pas particulièrement prenante, mais en plus le propos philosophique qui sous-tend tout ça n'est pas spécialement n'est pas spécialement creusé, en fait. Moi, c'est ça un peu qui m'a
toi, t'as besoin qu'on aille en profondeur dans les choses, hein, c'est ça.
Toujours.
Bon, Laurent, défends-nous un peu Zetteri.
Non, mais
c'est ton rôle, non?
Bah,
l'avocat
principe...
du diable.
Non, mais le fait même quoi, qu'on n'ait peut-être pas envie d'aller à l'épisode suivant, qu'on puisse facilement décrocher, c'est peut-être que finalement l'influence américaine n'est pas si importante que ça, qu'elle a sa propre identité, et ne serait-ce que par l'ambiance, qui est, là aussi c'est un mix en effet de grands espaces comme ça américains, ou un truc à la Twin Peaks, et en même temps c'est complètement français.
L'idée du barrage, moi j'aime assez bien.
L'idée du barrage est terrible. C'est vrai que la photo est super, ouais. L'image du chamois comme ça qui
ouais,
est dans le lac est assez.
Mais c'est vrai que le traitement, c'est un peu film d'auteur à la française, quoi. Mm-hmm. C'est un peu comme si, pour caricaturer, il y a Walking Dead d'un côté et il y a Les Revenants de l'autre, quoi. Et en même temps, est-ce que Les Revenants, c'est pas plutôt une sorte de soupe aux choux à la sauce film d'auteur à la française, enfin,
Mais moi, j'avoue, par exemple, pardon.
Le type qui a réalisé la série fait un film qui s'appelait Simon Werner a disparu. Je sais pas si quelqu'un l'a
vu. Enfin, il a réalisé la moitié des épisodes.
Oui, c'est ça. Mais bon, moi, j'ai pas vu celui-là.
C'est le créateur, c'est le showrunner de la série.
Exactement, oui.
Et moi qui n'ai aucune culture zombie, par exemple, j'étais agréablement surpris de voir que ces zombies, finalement, étaient assez normaux.
Mais ça, ils
paraissent pas du tout, en tout cas au départ, antipathiques ou agressifs. Donc on n'est pas du tout dans ce registre-là. Il n'y a pas d'effets spéciaux, quasi aucun. Et donc,
il y a juste le petit garçon que tu as envie de... T'as envie de le taper quand même.
C'est vrai.
Assez rapidement, t'as envie de dire, dis quelque chose, tu me saoules.
Mais là, il y a des problèmes de scénario, je trouve, parce qu'effectivement, ce gamin, on a l'impression qu'il sort du sixième sens, hein. Il revient d'entre les morts et il dit que dalle. Et puis tout d'un coup, un épisode, il commence à parler.
Oui,
sans raison.
On ne sait pas pourquoi.
Ils vont dans un diner, là, et alors il dit, pourquoi mon papa et ma maman? Donc il devient complètement gnangnan en un épisode, et il n'y a pas d'explication, alors qu'avant ça, on nous jouait le coup de l'autiste un peu inquiétant, comme ça, du petit gamin dans le coin de la pièce. Et là, je trouve qu'il y a des problèmes de scénario. D'un épisode à l'autre, on a l'impression qu'ils ne sont pas consultés et que les personnages ne sont pas les mêmes, en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre.
Donc, bon, en bref, la presse française crie au génie parce que c'est une série française, tout simplement.
En tout cas, vous êtes dur.
Non, je pense qu'il y a, tellement de références difficiles dans le monde de la série française. Il y a eu quelques grandes réussites.
Julie Lescaut,
Les Cordiers. Il y a eu Quai numéro 1 qu'on oublie un peu trop souvent, des choses comme ça. Non, mais il y a eu Pigalle la nuit, par exemple, qui était une excellente série pour moi, je trouve. Ouais. Certainement, d'après moi, la meilleure série française que j'ai pu voir jusqu'à présent. Il y a eu quelques bonnes réussites. Il y a eu la série Engrenage, qui est assez bien foutue. Mais sinon, globalement, ça reste quand même toujours de la. On a toujours 10 longueurs de retard sur les séries américaines et britanniques et nordiques. Donc ici, c'est sûr que quand ça commence à ressembler à quelque chose et que c'est plutôt bien mis en photo.
Si c'est pas gênant, c'est formidable.
Voilà, je crois qu'il y a un petit côté comme ça. Je crois qu'il y a un côté où ils sont soulagés quelque part de se dire en plus c'est une création originale de Canal+, etc. Donc je pense qu'il y a ce côté, on peut aussi faire quelque chose d'assez correct, en fait.
Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que les Français crient au génie parce que simplement c'est plus ou moins bien réalisé, que c'est pas joué comme des quiches, quoi.
Moi je trouve que c'est joué comme des quiches. Hein,
ouais, je trouve que ça va, quoi, le casting. Mais le problème c'est qu'il faut qu'ils fassent pareil maintenant avec un scénario, quoi.
C'est ça.
Alors ça pourrait être une série.
Qu'ils ont et pas en assassinant Anne Consigny aussi, si quelqu'un peut s'y coller. Enfin, moi, ça me
mais est-ce que Anne Consigny rit? Non.
Dans
elle
la vie,
un jour au cinéma ou
je
pas?
Je pense pas.
Non. Je pense qu'elle est. Elle est...
Mais si, elle était super lumineuse dans le film de René. Là.
Mais moi, j'aime bien cette actrice, en fait.
Mais enfin.
Ici, juste
pas,
elle a un personnage.
Mais toi, t'aimes les milfs maigres et blondes.
Anne Consigny en milfs. Là, je trouve ça vraiment. Non, moi, je quitte ce pays, en fait, maintenant, tout de suite. Tu veux pas, tu dénatures complètement le terme MILF là.
Oui, c'est vrai.
C'est un genre, cinéma d'auteur.
Bon, allez, moi je lui mets 6 sur 10, Nicolas.
3.
6, c'est bien ça.
Laurent ?
Je peux faire remarquer encore un truc?
Non, c'est trop tard.
Non, et dans le bar, il y a un poster
de Flex
d'un concert
Alindo.
De Flex Alindo.
Bien sûr.
Ce qui est quand même improbable, ce groupe de.
On en a parlé avec
Rock Namurois des années. Quoi,
avec
90,
ouais, c'est ça. Ça, ouais.
On en a parlé lundi avec Nico en disant il y a un poster de ça, c'est vraiment la référence c'est... qui tue en fait.
Et donc, voir débouler ça dans une série française, enfin ça la rend encore plus intrigante.
Voilà.
Un bon set.
Pardon. Un bon set. On parlait donc des Revenants qui viennent de sortir chez nous en DVD. The Perks of Being a Wallflower, c'est le film le plus émouvant du moment, en tout cas sur Facebook et sur Twitter. Tous mes contacts ne s'en remettent pas, ils se partagent frénétiquement la bande-annonce en disant « Putain, c'est trop beau, c'est trop vrai !» Stephen Chbosky a réalisé ce film. Il a aussi écrit le roman sur lequel il est basé, qui est un classique de la littérature américaine pour ados. C'est l'histoire de Charlie. D'ailleurs, en français, le film s'appelle « Le monde de Charlie ». Charlie qui est un adolescent qui change d'école et qui est passablement perturbé après le suicide de son meilleur ami. Nouvelle classe, nouvelle tête et l'occasion de repartir à zéro. Il se fait des nouveaux potes, il rencontre l'amour en la personne de Sam, joué par Emma Watson, et il apprend à devenir adulte. C'est très simple, c'est plutôt mignon, très charmant, et ça dénote franchement dans le paysage audiovisuel actuel parce que c'est très doux et confortable, avec des adolescents gentils et bien sous tout rapport. On est quand même très très loin de Skins ou des films de Larry Clark. C'est même presque étrange, on n'a plus l'habitude de ce genre de choses, on n'a plus l'habitude qu'il n'y ait pas un retournement de situation gore, un viol, un amour malsain, de la drogue à foison. Eh ben non, ici ce sont juste des ados comme les autres, ni plus ni moins. C'est frais, comme dirait nos grands-mères. Guy, Roi de la Nuit, est-ce que tu as aimé ce film?
Donc je suis allé le voir hier soir au Vendôme et j'étais assez... j'avais le cœur léger en sortant, on va dire. Voilà, c'était mignon, comme tu l'as très justement dit. Mais par contre, il y a deux, trois choses à dire. Effectivement, c'est bien écrit, c'est bien joué et c'est tout mignon, tout léger, tout aérien. Mais ça me fait quand même penser à pas mal de films indépendants américains que j'ai vus dans ma prime jeunesse et dans ma prime adolescence, des Garden State, des Cash, enfin Cashback c'était plutôt anglais, mais des films même Little Miss Sunshine, Juno, etc.
Oui, d'ailleurs c'est produit et c'est l'argument de vente du film produit par les producteurs de Juno.
Voilà, donc il y a quand même, je trouve, au-delà des qualités du film, il y a quand même un certain nombre de ficelles. De films indépendants américains.
C'est quoi les ficelles de films indépendants?
Par exemple, le personnage d'Ezra Miller qui joue le copain de Charlie, enfin qui joue le premier ami un peu cool de Charlie. Donc lui, bon, Ezra Miller, pour resituer, c'est le garçon qui jouait dans Winnie
the Pooh about Kevin, qui faisait super peur.
Qui faisait super peur. Donc c'est. Voilà, quand j'ai vu arriver Ezra Miller à l'écran,
j'ai eu peur.
Je me suis un petit peu affalé dans mon fauteuil en me disant qu'est-ce qu'il va encore nous sortir. Finalement, ça va, il a un rôle plutôt sympa, mais justement, il a ce genre de rôle un peu d'adolescent, extraverti, complètement à l'avant-garde, etc., qu'on a déjà vu. Des choses, moi, des adolescents parfaits comme ça, qui assument complètement leur sexualité, etc., qui ont 17 ou 18 ans, mais qui sont total cool et total tout ce qu'il faut, etc., mais qui sont en même temps généreux, ouverts, etc. Ça me fait toujours un petit peu, ça me dresse toujours un petit peu les poils parce que fondamentalement, même si c'est gay à voir, c'est un petit peu irréaliste, oui. Je trouve. Donc il y a un peu ce genre de personnage là. Il y a toujours le côté, la musique est cool, on aime bien la musique cool, on écoute les Smiths,
ça m'a agacé, par
on contre. Écoute les Smiths, etc. Des choses comme ça et on se fait des bandes son et des trucs dans le genre. Donc il y a un petit peu
on
des.
On se fait des cassettes. Quoi.
On se fait des cassettes. Ah voilà.
Ben. Pourquoi tu te faisais pas de cassettes
mais évidemment. Si.
Ah. Ouais, mais est-ce que ça m'a replongé dans. Parce que les Smiths c'est cool.
Ah oui, ah bah oui.
Maintenant c'est cool.
Ah oui, oui. Ouais. Pour les années 90 où t'étais censé t'écouter la bouche et
sensible,
tout
oui,
limited. Oui, les Smiths, les gens qui écoutaient les Smiths, c'était le plus cool de l'école.
Mais à ce stade, aujourd'hui, si tu vois aujourd'hui, imaginons aujourd'hui, voilà, tu resitues pas vraiment parce que c'est pas vraiment situé dans le temps.
Si, plutôt 90s. Hein. Oui, ils ont pas de GSM.
Oui, non, bien sûr, mais si tu regardes le film, ça pourrait très bien se passer maintenant.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas une référence 1992, on y est, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que c'est plutôt un film contemporain. Voilà, et donc quand des jeunes de 17-18 ans parlent de références musicales complètement, comment dire, branché, etc. Il y a ce côté un petit peu, je trouve.
C'est poseur, voilà. Un peu.
Voilà, ouais. C'est un peu poseur, exactement. Et
ils
ensuite.
Ils auraient pu écouter la SketchUp, hein. Je
veux bien, oui, oui.
Et c'est ce que je dis.
Moi, je trouve autant qu'ils écoutent de la bonne
complètement.
Musique.
Non, non. Bon. Nico, c'est pas du tout. Moi, je non, préfère non, qu'ils écoutent ça. Mais c'est le côté vraiment. On est entre nous, on a 16 ans et on écoute vraiment des trucs qui tuent et des groupes que personne connaît, etc. Et voilà, il y a ce côté un petit peu là dans le film. Il y a aussi un autre côté que j'ai complètement oublié maintenant, mais qui va me revenir. voilà.
Bon, c'est peut-être l'occasion de distribuer la parole, de la donner à Isaline, dont les nombreux fans attendent la vie comme la parole d'évangile.
Moi, j'ai trouvé que c'était un assez joli film. Alors, je suis pas sûre que j'étais le public cible pour ce film-là, mais j'ai quand même été sensible à un truc. Je trouve assez chaud. Je trouve ça un film qui est porté par un bel élan comme ça, assez solaire, assez vital. Je trouve que les personnages sont attachants, sont bien campés. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait justement le personnage de Patrick, je crois, d'Ezra Miller. Je trouve que c'est vrai, il a un physique Ezra Miller assez fascinant. Ouais. Dès qu'il apparaît à l'écran, je trouve qu'il a un charisme, il a cette silhouette comme ça un peu élancée, assez gentiment hystérique, un peu excentrique comme
et
ça.
Et qu'est-ce qu'on pense d'Emma Watson ? Ça, je serais curieuse de le savoir.
Joker. Moi,
je trouve assez insipide.
Oui. C'est vraiment pas le personnage. Voilà, son personnage est assez beau. L'histoire qu'elle a avec Charlie, c'est quand même une belle histoire, je trouve. Mm-hmm. C'est pas elle qui m'a le plus retenu. Vraiment, je retiendrai plutôt Patrick, quoi, cet ami qu'on aurait voulu avoir. Effectivement, ultra cool. Kekem aussi, il y a aussi un pari dans ce film, c'est que voilà, moi j'ai eu l'impression les 10 premières minutes de savoir ce que j'allais voir, quoi. Donc, c'est-à-dire l'histoire d'un garçon qui débarque au lycée un peu mal dans sa peau et qui allait pas se faire d'amis et que ça allait être sur ça, quoi, sur comment est-ce qu'on arrive à se faire des amis, à se faire respecter. Or, après, je sais pas, 20 minutes, il tombe quand même sur sans doute les deux personnes les plus cool du lycée qui l'intègrent complètement à la bande. Et là, je trouve que le film change quand même un petit peu d'angle. On est pris à ce moment-là dans le sillage de ces personnages assez intrigants, assez charismatiques. Et on passe du temps sur c'est quoi le développement d'une amitié, en fait. Et comment vivre chacun avec ses failles. Donc là, je trouve que le film prend peut-être une dimension un petit peu plus inquiétante aussi avec l'histoire de Charlie, dont on ne va rien révéler, mais donc voilà, qui s'éclaire au fur et à mesure de flashbacks successifs.
Sur lequel il n'y a pas grand-chose à révéler non plus, je trouve.
Non.
Il y a tout un nœud comme ça autour de, en effet, de l'histoire de Charlie, de ce qu'il aurait pu vivre avant, mais finalement, de un, on l'apprend très tard et on n'apprend pas grand-chose.
Et on s'en fout un peu.
On s'en fout un peu, chacun un peu ses failles. Je crois que c'est un petit peu le thème du film, quoi. Comment on peut en parler aux autres, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ce qu'on révèle aux autres de ce qu'on a vécu. Voilà, je crois que, ouais.
Et puis, il y a une phrase qui revient souvent, parce que Nico, toi, tu avais fait un papier sur ce film.
Oui, j'avais rencontré Ezra Miller au Festival de Gand.
C'est pas vrai.
Voilà.
Ah, quelle chance.
Et tu es de retour malgré tout. Il t'a pas stabé dans le dos avec un canif ou un truc comme ça.
Du tout, il était charmant.
Et donc, il y a une phrase qui revient souvent qui t'a aussi marqué, j'ai l'impression, c'est on accepte l'amour qu'on croit mériter. Je pense que c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est très ado, je trouve, comme thème, mais c'est vrai, finalement. Enfin, en tout cas, dans le film, c'est vrai. Moi, ça m'a parlé assez bien.
Toi, tu l'as mis 3 étoiles.
Et c'est Paul Rudd qui dit cette phrase.
La réponse à la question la plus stupide du film, parce que Charlie arrive devant son prof et lui dit « Pourquoi les gens gentils sortent avec les mauvaises personnes ?» C'est quand même vraiment super cliché, quoi.
Pour revenir sur Paul Rudd, je dois dire que quand j'ai vu son nom apparaître au générique, je me suis dit ça, je vais passer un bon moment, parce qu'en général, ce garçon fait toujours un très très bon choix. Donc c'était un point positif du film.
Il a une apparition de 17 secondes, deux fois 17 secondes.
Oui, mais bon, voilà. S'il s'intègre dans un casting, en général, c'est qu'il y a des qualités derrière.
D'accord.
Et par rapport à ce qu'Isaline disait, donc le côté, effectivement, rentrer dans un lycée sans avoir d'amis, etc.
Pour l'avoir déjà vécu toi-même, que peux-tu nous en dire ?
Pour le vivre toujours maintenant et d'être complètement outsider, même dans cette rédaction. Non, mais il faut pas dire que Patrick et ses amis, ce sont les gens les plus cools du lycée. Patrick, il est malgré tout moqué par tout le monde parce qu'il s'appelle parce qu'on le surnomme Nothing.
Nothing.
Moi, je l'ai vu hier, donc j'ai encore les souvenirs vivaces du truc. Mais donc, ça reste malgré tout des outsiders, malgré tout.
Ouais, mais il est pas cool par rapport aux gros bifs qui font du foot américain, voilà, dans le lycée, mais par rapport à tes critères à toi, enfin moi, par rapport à mes critères à moi, en tout cas, je le trouve vachement cool, quoi.
Oui, tout à fait, ils sont super, bien sûr, évidemment, merci.
Ouais, moi aussi, en fait.
Donc en fait, tu penses que mes critères de coolitude dépendent...
C'est relatif, quoi.
Non, non, bien sûr, mais dans le lycée, tu vois que la majorité des gens sont plutôt en train de se moquer relativement de Patrick et de Charlie et des autres, la nana qui a ses cheveux courts, enfin, qui a ses cheveux rasé là.
Oui, avec... et Marie-Elisabeth.
Voilà, complètement, etc. Donc,
qui est punk, voilà. Et bouddhiste. Quand
on reste malgré tout dans la marge, même si c'est la marge, cool, et même si on est content qu'il se fasse accepter.
Ouais.
Et quelque part, il y a un cheminement entre le rejet complet du début et l'acceptation, ce qui est quand même un cheminement classique des films adolescents et de lycée.
Bon, Guy, tu as déjà beaucoup trop parlé. Tu sais que Nicolas a rencontré Ezra Miller et a fait un papier pour Focus, donc je propose qu'on le laisse s'exprimer.
J'ai rien à dire de plus. Désolé, Guy, moi j'aime bien quand tu parles.
Merci. Est-ce que je dois me suicider? Est-ce que j'ai m'immolé en direct par rapport à ta remarque?
Non, non,
horrible.
Non, mais dans 20 minutes, quand ça sera parfait. Terminé.
Non, mais j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que c'est vrai que c'est un film qui parle plutôt à l'émotionnel qu'à l'intellectuel. Enfin, c'est difficile d'argumenter sur ce film-là, je trouve. Et c'est vrai que ça parle, j'ai l'impression, à l'adolescent qu'on a été. Enfin, moi, quand j'étais ado, je faisais aussi des cassettes,
oui, aussi.
Comme ça. Et donc, c'est vrai que ça parle. Et je crois que c'est un film sincère à ce niveau-là. Effectivement, il y a des défauts. C'est très teenage dans l'âme. Mais il y a un côté, effectivement, comme disait Isaline, un élan comme ça émotionnel qui emporte un peu, je trouve, toutes les réticences qu'il peut y avoir. Donc, je trouve ça, ouais, voilà, c'est un beau film.
Et puis, c'est Laurent qui aura le mot de la fin.
Mais non, mais justement, s'il n'y avait pas ça, ce serait assez déprimant, parce que la conclusion est quand même assez triste, quoi. C'est de dire, en gros, l'adolescence, c'est un moment comme ça un peu unique, et puis après, tout le monde va rentrer dans le rang. C'est quand même la dernière scène, quoi. Enfin, je ne vais pas sans dévoiler complètement l'intrigue.
Isaline.
Avec quand même, je trouve, une légère contradiction dans la dernière scène, justement, puisque ça parle, c'est quand même un film qui parle aussi beaucoup de ces moments M, là, où on a l'impression d'être infini. Enfin, je trouve ça assez bien fait dans le film, ces moments où on a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand de soi, d'être au bon moment, au bon endroit. Et ils le vivent une fois, et puis à la fin du film, ils se retrouvent tous les trois, et ils le revivent à nouveau, en remettant la même musique qu'ils ont enfin trouvée, parce que c'est une époque où on écoutait une musique à la radio, on ne savait pas ce que c'était pendant des mois, enfin c'est quand même assez fascinant. Et avec cette prétention qu'on peut revivre ce genre de moment, et ça, moi je trouve que c'est quand même un peu contradictoire, parce que justement, c'est des moments qui surprennent, qui prennent aux tripes, et c'est pas quelque chose qu'on peut recréer, je crois. Donc je trouve qu'il y avait quand même une petite contradiction, là.
Mais c'est très métaphysique.
Si personne n'a plus rien à ajouter, non? Non, une petite cotation sur 10, moi je mets 7. Laurent?
6.
Isalie?
Entre, ouais, 6,5, disons.
Ah, on n'en veut pas de 10,5 points, 6 ou 7?
Allez, 7.
Guy?
Moi j'ai mis 6 aux revenants, donc je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu gentil avec les revenants. Et donc, pour marquer la différence, je vais mettre 8 à The Perks of Being the Wallpaper
Flower.
Oui, c'est ça.
Et
moi, je vais mettre 7, comme toi, Myriam.
C'est bien. On va parler un petit peu plus vite de littérature à présent avec le nouveau livre de Jeffrey Eugenides, le roman du mariage. Jeffrey Eugenides est un écrivain star, c'est lui qui a écrit The Virgin Suicide dont est tiré le fameux film de Sofia Coppola. Eugenides est aussi Middlesex qui a obtenu le prix Pulitzer en 2002 et il revient aujourd'hui avec un roman d'amour, une sorte de Jules et Jim à l'américaine qui est aussi, comme le film dont on vient de parler, le récit du passage à l'âge adulte. Ça se passe dans une petite université américaine dans les années 80 avec trois jeunes gens, trois étudiants en littérature dont les destins vont s'entremêler. Deux garçons, une fille, deux possibilités. Il y a Madeleine, jolie adepte de la littérature victorienne, passionnée par ailleurs de Roland Barthes et de son fragment du discours amoureux. Madeleine qui est la grande fille saine américaine type, un peu psychorigide mais pas trop. Il y a Léonard, un malabar séduisant atteint de graves troubles mentaux dont Madeleine va tomber éperdument amoureuse. Et il y a Mitchell, le théologien baroudeur, dingue de Madeleine, mais que celle-ci considère simplement comme un ami. L'originalité du récit, outre qu'il est extrêmement bien écrit et très référencé sans tomber dans le name-dropping stérile, c'est sa narration. Une narration qui change de main à chaque chapitre et qui permet d'appréhender un même événement sous différents angles de vue, tout en continuant à avancer. C'est très brillant, c'est très agréable aussi, et plus globalement, je trouve ça très beau, réaliste, mais pas désenchanté pour autant. Le roman du mariage explore toutes les facettes de l'amour, ce qu'il a de romantique, de triste, d'emballant, de fou et de condamné à l'échec. J'ai adoré. Est-ce que c'est ton cas aussi, Isaline?
Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup le postulat de départ, cette question globalement de comment est-ce qu'on peut écrire un roman d'amour aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut parler du mariage aujourd'hui? Alors, effectivement, avec ses références à l'époque victorienne en Angleterre, avec tous ces romans à la Jane Austen, hein, Orgueil et préjugés, Raison et sentiments, où globalement une femme se trouvait entre plusieurs prétendants et toute la question était de savoir va-t-elle faire le bon choix ou non. Alors, le constat de Jenny Dess est assez clair, on ne peut plus écrire comme ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, voilà, on peut faire le choix, on peut divorcer. On a accès à beaucoup plus de liberté. Et donc, c'est toute la question de savoir comment transposer ces questions-là, ces questions d'amour et de mariage de l'Angleterre victorienne à l'Amérique de Reagan, puisque le roman se passe dans les années 80. Je trouve que c'est une question assez fascinante de romancier. Comment écrire le roman du mariage post-moderne, un peu. Voilà. Alors, je trouve que c'est très intéressant à partir du moment aussi où cette question-là est reconduite par le personnage de Madeleine, qui, comme tu l'as dit, Myriam, est complètement déchirée entre, d'une part, cette espèce de passion romantique pour les romans victoriens qu'elle lit le soir dans sa chambre un peu cachée, et en même temps, elle est féministe, elle est intellectuelle, et donc elle tente quelque part de se prémunir de l'amour en lisant Roland Barthes, hein, qui globalement, dans son fragment du discours amoureux, théorisait le discours amoureux en montrant que l'illusion romantique, on pouvait la réduire à quelques invariants, quoi, que tout le monde traverse.
Mais dans sa vraie vie, elle tombe complètement dans le panneau.
Effectivement, évidemment. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle balance entre deux hommes comme elle balance finalement entre les deux univers dictés par deux types de littérature différentes. Et donc, je trouve que Jenny Dess l'a quand même assez bien génie de réinventer le roman du mariage à la lumière de cette question. Jusqu'à quel point la littérature peut intervenir dans nos vies, à quel point elle peut nous faire prendre des décisions, nous pousser à faire des choses. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Je trouve quand même que le personnage de Madeleine est parfois un petit peu corseté là-dedans, finalement, qu'elle est peut-être un peu corsetée dans ce discours théorique et qu'elle est du coup un peu lisse, un peu emprisonnée par ces références-là. C'est pas pour moi la plus grande force du roman, bizarrement, même si c'est quelque chose de très intéressant, mais je trouve qu'à partir de la moitié du livre, il y a ce passage où Léonard prend la parole. Et en fait, Léonard, comme tu l'as dit, il est dans des phases de maniaco-dépression assez incroyables.
Il est sous lithium.
Il va décider de réguler lui-même son traitement, et donc il est dans une phase maniaque, un truc un peu puissant, hypersexuel, avec quand même une inventivité assez incroyable. Et je trouve que là, le roman, c'est comme s'il se débarrassait de tous ses haltères théoriques, et je trouve qu'il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre d'un élan, quoi. Il joue au casino, il achète une cape, enfin, il y a des trucs super inquiétants comme ça.
C'est vraiment bien, ce passage-là.
Du retour de bâton, quand même, parce qu'on sait qu'il va avoir la phase dépressive juste après. Je trouve que ça, vraiment, c'est un moment qui m'a assez happée.
Voilà. Oui, moi aussi. Alors, Laurent et Nicolas se souriaient étrangement pendant qu'Isaline parlait.
On touchait du pied sous la table, mais c'était vraiment totalement involontaire.
C'était donc
ça n'avait rien à voir avec mon discours.
Mais non, je me demandais.
Non, mais c'était brillant.
Évidemment, comme toujours. Hein. Tes fans seront contents, Isaline. Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Je ne peux qu'abonder dans le sens d'Isaline, qui a fort joliment dit les choses. Je trouve que c'est un roman effectivement super agréable à lire. Il a un style où à la fois il fait pas le malin. Je trouve que c'est très fluide, c'est très sobre, c'est un style très direct et pas très chargé, etc. Et en même temps, il part tout le temps dans des théories et tout ça, mais qui passe très bien. Il a une capacité comme ça à brasser plein de choses dans le récit, donc parler de l'amour, de la littérature, de l'amour, de la littérature, de la littérature, de l'amour, de la foi, de la science, de ce que c'est qu'une relation. Là-dessus, il est très juste. Moi, la seule petite réticence que j'aurais, c'est finalement le projet même du livre, c'est-à-dire écrire un roman du mariage qui se passerait à la fin du XXe siècle, donc au début des années 80, ici en l'occurrence. J'avoue que ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, quoi.
C'est quand même ça le problème, hein, majeur de ce bouquin, quoi. C'est que lui-même
Laurent,
le dit.
Qui va à contre-courant, c'est bizarre, ça.
Attends, non, mais il le dit lui-même. Le roman du mariage, c'était un peu l'aboutissement du roman. Il y avait les épopées qui parlaient des guerres et les vrais enjeux politiques au niveau personnel. C'était le mariage, mais on part du 19e siècle, là. Et là, aujourd'hui, le mariage, c'est fondamentalement plus un enjeu politique, ni quoi que ce soit. Donc c'est étonnant de, malgré tout, faire un bouquin là-dessus.
Oui, il y a beaucoup d'autres
sans franchement apporter grand-chose si on... Si on enlève un peu ce truc-là, on est
vraiment
dans un trio amoureux. En plus, le trio amoureux qui n'est pas...
C'est pas un triangle.
C'est pas vraiment un triangle.
Non, parce que les deux garçons n'ont pas de relation. Elles se connaissent pas, en fait.
Oui, et puis l'histoire entre le Mitchell et Madeleine est quand même très, très ténue. Enfin, ça tient pas grand-chose. Moi, j'y ai pas cru une seule seconde.
C'est parce que tu n'es pas romantique, ça. Tu ne crois pas qu'on puisse aimer quelqu'un pendant des années sans son retour de sa part?
C'est pas la question, c'est que on en parle même très peu au début du livre, finalement, de cette soi-disant relation, de cette soi-disant amitié. Elle est très peu développée au début du livre, donc finalement, si ça tient à si peu de choses dans le livre, pourquoi les personnages devraient y tenir davantage, enfin.
Mais moi, je trouve que c'est quand même aussi un roman sur tout simplement un... Parce que oui, Johnny Depp, c'est quand même le romancier du changement d'état, du passage. Là, c'est clairement qu'est-ce que c'est de devenir adulte, qu'est-ce que ça suppose comme renoncement.
Et à nouveau, la
conclusion... Et le mariage, à travers ça, je trouve qu'il poursuit quand même ce projet de dire qu'est-ce que c'est de perdre ses illusions, parce que c'est surtout ça, en fait, qui se passe, parce qu'il y aura un mariage dans le livre, voilà, on va pas en dire plus. Mais... Et je trouve que cette époque qu'il explore post-universitaire ou en quelques mois qui sont quand même super suffocants, vertigineux, où on doit décider de ce qu'on va faire, de sa vie, où est-ce qu'on va vivre, avec qui. Une période comme ça, oui, où tout est possible, et à la fois où tout se referme super vite. Enfin, je trouve que c'est un enjeu romanesque assez stupéfiant, quoi. Et je trouve que Jenny Dess a vraiment, en plus, le sens du détail, quoi. Tout est très physique, tout est très tangible, mis sous nos yeux. Je trouve que c'est vraiment... Oui, un grand ballet parfaitement orchestré dans l'ingérable et l'imprévu, justement, des relations humaines, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup dans son écriture.
Mais par exemple, cette phase-là, après, tout ce qui se passe après la sortie de l'UNIF, c'est un tir du roman, c'est pas beaucoup, beaucoup plus. Et il y a à nouveau, la conclusion est quand même, comme un peu dans le film Perks of Being, la conclusion est quand même super négative, ou en tout cas on perd pas mal d'illusions, on se donne l'impression qu'après l'adolescence, en effet, il se passe plus grand chose.
Nicolas.
Et moi, j'ai adoré la fin, justement. Donc autant ce projet de refaire un roman du mariage et tout ça, j'ai un peu du mal. Autant la fin, sans dévoiler le truc, mais il ouvre vers quelque chose, justement, un discours plus moderne. Et on a l'impression que finalement, ce roman du mariage, c'est un peu, effectivement, comme disait Aline, un prétexte à brasser plein de choses. Mais du coup, effectivement, cette structure et cette idée de refaire un roman du mariage, est-ce que c'est bien nécessaire, quoi, finalement?
Mais bon, voilà. On va mettre une petite cotation, puisque l'heure tourne. Combien? Moi, je mets 8. Un bon 8. 8,5, voire 9. Oui.
Moi, je mettrais 8 s'il fallait coter, effectivement, le côté brillant, l'écriture et tout ça, les théories et tout ça de Jenny Dess. Mais par rapport à mon intérêt personnel pour le fil rouge et l'ambition même du roman, je mettrais plutôt 6.
D'accord. Isaline?
8.
Et Laurent?
6.
Oh, pas gentil. C'est donc le roman du mariage de Jeffrey Eugénides qui est sorti en librairie début janvier. On va parler, et rapidement cette fois, de musique avec Aline, le groupe français qui émeut les hypeux en ce moment. On a entendu, on entend ici un bout de « Je bois et puis je danse », le premier single. L'album « Regarde le ciel » était d'ailleurs en écoute sur le site de Libération récemment. Aline, qui s'appelait jusqu'il y a peu Young Michelin et qui a été contrainte de changer de nom par la marque de pneus.
Ah oui.
Dingue cette histoire. Bref, « Regarde le ciel », c'est un premier album qui brasse des tas d'influences. Étienne Dao, Taxi Girl, Les Innocents, notamment un peu d'Indochine dans la voix aussi. Ça fait forcément penser à Lescope avec un tel pédigré, mais un Lescope réussi, avec des textes nettement mieux torchés, beaucoup moins de posture. C'est pop, c'est frais, c'est joli, c'est réjouissant, ça fait des bulles de savon dans les oreilles. Je valide. Qui a envie de parler de ce disque? Bon, allez, le chef des pages musiques, Laurent. Allez, chef.
J'ai pas un grand discours sur ce disque, sauf que voilà, on est nouveau dans un truc hyper référencé, hyper connoté, avec pas. Voilà, là, on entend. T'as cité plein de références françaises, il y en a plein, plein de références anglaises, de Cure, de Smith, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et je suis certain que ces jeunes gens modernes sont hyper sincères et. Je pense que leur démarche est vraiment oui, bah, assez intime et personnelle. En même temps, après, ça reste... Il n'y a rien de neuf, quoi. De nouveau, encore et encore. Et donc, personnellement, moi, c'est un vrai plaisir coupable. J'aime vraiment bien ce disque. Les chansons sont super bien foutues. Enfin, il y a plein de mélodies vachement bien torchées. Après, voilà. Je constate juste que ça ne fait pas, franchement, avancer le Schmilblick. Mais tout le monde s'en fout, hein. On est bien d'accord.
Oui. Ouais. C'est vrai, voilà. De temps en temps on s'en fout. Guy.
Oui, effectivement, moi ça. Je dois dire que quand j'ai commencé à écouter le disque, il y a le morceau d'introduction m'a complètement bluffé. Je trouvais ça vraiment très très bien le morceau.
Je bois et puis je danse. Ah non,
non, l'instrumental.
Oui, les instruments. Il y en a plusieurs.
L'instrumental d'ouverture est particulièrement bluffant. Et ensuite, il m'est arrivé un phénomène assez curieux, c'est que au fur et à mesure de l'écoute du disque, j'oubliais que j'étais en train d'écouter la musique. Donc je faisais complètement autre chose, en oubliant carrément qu'il y avait de la musique dans mes oreilles. Donc c'est pas super bon signe. En général, ça veut dire que c'est un petit peu crispant. Donc je me suis dit, à un moment, parfois, je me réveillais en me disant, oh, les Cure, ou oh, Indochine, ou et des choses comme ça. Et puis, fondamentalement... voilà, je fais totalement confiance à Laurent par rapport à l'analyse du disque. Il y a certainement les bonnes mélodies et les paroles sont certainement pas si mal, mais globalement, ça m'a pas laissé une impression.
Globalement, tu t'en fous.
Globalement, je m'en contrebalance. Ouais.
Nicolas, qui est un peu le chef de file des gens bien et des hipsters du Grand Bruxelles.
J'espère que non, merde. Mais je suis assez d'accord avec Laurent. Laurent parlait de la sincérité du disque et ça, je crois que. C'est quelque chose qui me parle pas mal dans le disque, c'est ce côté très premier degré, il n'y a pas d'ironie en fait dans la démarche. Alors c'est vrai que c'est très rétromaniaque et donc ça a ses limites, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune originalité dans l'album, mais en même temps, il est presque aussi touchant, j'ai l'impression, que la pop des années 80 à laquelle il fait sans cesse référence, comme le disait Laurent. C'est vrai que mais j'aime pas trop quand on parle d'Indochine parce qu'en fait j'ai l'impression que ça évoque plutôt Cure et que comme
dans la voix
ouais, mais comme le vilain Nicolas Sirkis a parodié ou a pompé Cure pendant toute la carrière d'Indochine, on dit Indochine parce qu'il chante en français, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Cure quand même.
C'est le timbre de voix, je pense. C'est vraiment le timbre de voix qui fait penser à ça.
Et c'est vrai que ça évoque des trucs. Moi je pense à ce fameux label de Bristol qui s'appelle Sarah Records, donc il fait une pop très ligne claire comme ça, avec des guitares cristallines, une voix assez détachée. Et d'ailleurs les visuels en fait du groupe, hein, qui sont signés par un illustrateur français qui s'appelle Martin Etienne, je pense, sont aussi très ligne claire, mais niveau BD, enfin il y a un univers assez cohérent comme ça. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que la première partie du disque, enfin, Guy parlait de l'instrumental là qui s'appelle Les Copains, qui est en fait un morceau qui est vieux déjà, qui a plus de 2 ou 3 ans, puisqu'il avait gagné le concours CQFD des Un Rock, je pense, il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelait Young Michelin. La première partie du disque, moi, je la trouve carrément magnifique. Et puis, sur la fin, on a l'impression qu'ils font un peu du remplissage. Et il y a 2 ou 3 morceaux qui sont un peu superflus, il me semble. Mais, donc, pas d'originalité, mais un beau disque, quoi, qui aurait pu sortir dans les années 80.
Un beau disque. Isaline.
Et moi, je connaissais donc cette chanson, là, Je bois et puis je danse, qui est quand même ce tube un peu inévitable. On imagine un peu le dandy amoureux déglingué devant son miroir qui chante. Ça, j'aime quand même vraiment bien, en fait. Je trouve que c'est un morceau super efficace et voilà, je pense que tout le monde aurait envie de bouger dessus en l'écoutant. Alors, ça marche sans doute moins bien à l'échelle d'un album entier. Moi, j'ai eu clairement du mal à passer outre cette espèce de monobloc pop avec ce rythme, ces synthés omniprésents voilà, qui me mettaient à distance, qui m'ont carrément saoulée. Moi, je sature très très vite en fait, de ce genre d'ambiance. Je trouve que tout est noyé dans un bain saccadé, lassant. C'est peut-être un peu dommage, mais quand même bien leur définition de la pop, hein, que j'ai lu dans l'interview qui était sur le site de Libé, c'est ça, je
crois. Ouais, c'est possible.
Il disait la pop, donc c'est pouvoir danser et chanter avec une boule dans la gorge et les larmes au bord des yeux. C'est le propre de la pop. Alors sans doute, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques fragilités, quelques sensibilités, quelques zones très sombres dans l'album, mais j'ai eu tout simplement du mal à y accéder parce qu'il y avait ce bloc un peu monolithique pour moi, malgré un petit côté léger, désenchanté, assez séduisant.
Est-ce que je peux vite lancer un tout petit débat, un tout petit débat par rapport. Donc je pensais justement au Revenant. Curieusement, donc je fais un lien assez exceptionnel. Merci beaucoup, je t'en remercie. Entre les Revenants et cet album d'Aline, le côté pop en français. Alors voilà, c'est comme les zombies en français et la pop en français. Ah. Je veux vite lancer un petit débat là-dessus, si c'est possible, pour que tout le monde me dise un petit peu ce qu'il en pense de savoir réellement ce que les personnes racontent quand elles chantent de la pop. Est-ce que ça vous parle ?
Moi, si je peux réagir, moi, je trouve que justement...
J'ai pas compris la question.
le côté pop avec des paroles en français, c'est ça, hein ?
Absolument.
Et moi, ici, justement, les paroles, en fait, je sais pas de quoi ça parle. Et donc, moi, je trouve que c'est réussi. Quand la chanson française, on s'en fout des paroles et que ça passe, en fait, comme de l'anglais. C'est-à-dire, quand on écoute de l'anglais, moi, on pourrait chanter en yaourt, ce serait pareil. Je m'arrête pas sur les paroles. Ici, c'est pareil. Et donc, apparemment, moi, ça parle de trucs très ados, hein, d'innocence perdue, de rupture, de désillusion, etc. Moi, je dis ça parce que je l'ai lu dans des articles, mais quand j'écoute les morceaux, en fait, je sais pas de quoi ils parlent. Et donc, je trouve que ça, c'est réussi. C'est vraiment de la pop quand on s'en fout des paroles.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'intéressant, de plus intéressant encore que Nicolas?
Ça m'étonnerait.
C'est un peu comme Alan Théo à l'époque. On s'en foutait un peu des paroles.
C'est vrai. C'était tellement bien que...
Il faut être content.
Son retour d'ailleurs, Alan Théo. Bon, allez, vite une cotation. Moi, je mets 7 sur 10, Nicolas.
Ouais, j'avais envie de mettre 7, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 morceaux un peu remplissage sur la fin. Donc, je vais mettre une cote à la Pitchfork. Je vais mettre 6,8.
D'accord. Qui
J'ai mis 6 au Revenant. Donc, je vais mettre 7 à Aline.
Isaline ?
Moi, je réécouterai vraiment pas l'album, je crois. 5.
Et Laurent ?
6.
C'était donc Regarde le ciel, le premier album.
Est-ce que je peux vite intervenir une toute dernière fois ? J'ai mis 7 alors que les gens qui aimaient vraiment bien ont mis 6. Donc est-ce que je peux remettre 5 ?
Je crois qu'on a bien compris. Ça ira comme ça. Merci. Merci. Bon allez, on va terminer avec les coups de cœur de la semaine. Le mien, tout d'abord, qui n'est pas tout neuf, mais j'avais quand même un peu loupé le train en marche. J'ai enfin été voir Argo, le film 2, avec Ben Affleck. Et si j'ai toujours eu un certain mépris pour les gens qui applaudissent un écran noir à la fin d'un film, je dois dire que pour celui-là, si quelqu'un avait embarqué dans les applaudissements, je l'aurais suivi... sans honte, vraiment, j'aurais assumé. Un film qui revient sur une histoire vraie où la CIA exfiltrée d'Iran en pleine révolution des employés d'ambassade en les faisant passer pour une équipe d'un film de science-fiction. C'est intelligent, c'est divertissant, c'est haletant et c'est parfois franchement drôle. Moi j'ai rigolé, ça m'arrive pas souvent. Et c'est aussi et surtout l'occasion de goûter à la solitude des héros. J'ai failli écraser une petite larme de crocodile à la fin tellement ça m'a touchée. Bref, si vous ne l'avez pas encore fait, courez-y. Allez le voir, je crois que c'est une valeur sûre. Et c'était mon coup de cœur de la semaine. Qui a envie de nous parler du sien ? Laurent ?
Moi, je voudrais mettre en avant le nouveau disque de José James, qui est un Américain qui a sorti deux premiers disques. Qui
José,
un peu...
quoi ?
José. qui mêlait donc un peu...
Rosé,
Rodriguez.
C'est un disque vinicole, c'est Rosé James.
C'est nous. Qui donc a plutôt un passé. C'est un jeune, hein, il a grandi dans le hip-hop, mais il a viré dans le jazz et puis il a toujours un peu mêlé de soul à tout ça. Et donc aujourd'hui, il sort un album qu'il a produit, financé, composé tout le brol entièrement tout seul, mais qui sort chez Blue Note. Et qui est une espèce de résumé, c'est assez soft, c'est assez, on est au bord du crooning, c'est un truc assez smooth comme ça, et donc ça plaira à toutes les filles. Et voilà, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien, c'est pour les soirées entre amis avec des cocktails et ce genre de choses.
Ah oui, ce qu'on fait tout le temps en fait.
Exactement.
Voilà. Isaline.
Moi je viens avec un essai parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup ici. Ça s'appelle Trois Américaines à Paris et c'est publié chez Gallimard par Alice Kaplan. Alors ça date déjà, je crois, du mois de novembre, mais voilà, pourquoi pas y revenir. Alors c'est une biographie en triptyque en fait consacrée à trois Américaines venues, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, passer un an en France, voilà, à Paris. Alors il y a la First Lady Jacqueline Bouvier-Kennedy, il y a l'essayiste Suzanne Zontag. Et il y a la militante des droits civiques Angela Davis. Et donc Alice Kaplan cherche un peu à explorer comment cette année à Paris a pu transformer ces trois femmes, comment elles se sont appropriées ce rêve français qui était quand même assez couru à l'époque. Et je trouve que c'est assez beau et assez juste parce que ça nous donne un peu un regard, un dernier regard sur ce qu'elles ont pu être avant que l'imaginaire national internationale, les effiger dans un rôle. C'est une sorte de dernière respiration avant qu'elle, voilà, qu'elle devienne ce qu'elle devait devenir, finalement. C'est vraiment vachement intéressant. Donc, c'est chez Gallimard, Trois Américaines à Paris.
À Guy, maintenant.
Alors, il y a la toute nouvelle Starac. Pour parler télé, qui est vraiment très très bien, je trouve, sur AB3.
Ben, franchement,
et le concours de Miss Belgique.
Je l'ai parlé de la Nouvelle Star. Hein, c'est bien, quelqu'un a regardé la Nouvelle Star ? Avec Morane dans le jury. Non.
Morane qui a maigri, c'est ça hein.
Ah oui, oui, oui grâce à Weight Watcher. Et c'est pas mal en fait, c'est moins hystérique qu'avec Lio. Non, je trouve. Et en plus, les talents qu'ils ont castés, là, ils ont choisi récemment les 10 derniers. Oh merde, mais j'ai l'impression que vous me regardez comme si j'étais vraiment très étrange.
Mais t'as toujours été touché par la Nouvelle Star. Et...
Ouais, j'avoue, j'ai un petit fait pour la Nouvelle Star. Mais alors, la Starac, c'est énorme.
C'était une plaisanterie, évidemment. Non, en fait, si tu veux, mon coup de cœur du moment, c'est la saison 5 de Parks and Recreation, qui est ma série comique préférée du moment. En attendant que Louis étrenne la saison 4, Parks and Recreation, voilà, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une série en style documentaire sur une administration d'une espèce de commune imaginaire dans l'Indiana. Et voilà, c'est un petit peu un spin-off, ça ressemble un petit peu à The Office et c'est très, 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 très drôle. Voilà, donc j'ai pas une grande inspiration par rapport à ça, si ce n'est que je conseille à tout le monde de la découvrir.
Et enfin, Nicolas.
Je voulais parler d'un film de 2011 qui n'est jamais sorti
de 2011. De 2011,
qui n'est jamais sorti sur les écrans, donc honte aux distributeurs belges, mais qui sort aujourd'hui ou qui vient de sortir en DVD et en Blu-ray. Ça s'appelle Harakiri, mort d'un samouraï. Donc, c'est un film japonais de Takeshi Miike, donc qui est un cinéaste très prolifique, puisqu'il sort plus ou moins 2 ou 3 films par an.
Ah bon. Gage de qualité, évidemment.
Dans son cas, oui, je trouve. Parfois, travailler vite, oui, ça peut être un gage de qualité. Et donc, c'est un gars surtout qui est connu pour ses films ultra violents, super provocateurs. On se souvient notamment d'un film qui s'appelait Ichi the Killer. Quand il était montré dans les festivals.
Je connais Ichi et Scratchy.
Ichi the Killer. C'est plus violent que Ichi et Scratchy encore, ouais. Et dans les festivals, quand il était montré, en fait, on distribuait des sacs pour que les gens puissent éventuellement vomir pendant la séance, tellement c'était trash, violent et malsain. Et ici, ce qui est assez génial, c'est qu'il revient avec un remake d'un film de samouraï, d'un vieux film de samouraï, d'un classique japonais. Harakiri, mort d'un samouraï. Et c'est un film, c'est un drame en fait. Il n'y a pas du tout ce côté provocateur, violent, etc. Donc le gars, il est capable de faire autre chose que ça. Et il signe un film en fait très moderne sur le fond, puisqu'il fustige un peu justement le code d'honneur qui est vanté dans tous les films de samouraï. Et en même temps qu'il y a un drame intimiste, familial, magnifique, il y a une photo incroyable. C'est vraiment une merveille en fait. C'est un drame, plus qu'un film de samouraï. C'est vrai que le film, ça fait. En fait, en plus, le Blu-ray propose le film en 3D, donc ça fait un peu Harakiri, mort d'un samouraï en 3D. Il va y avoir du sang partout et tout ça, et en fait, pas du tout, quoi. C'est un truc très sensible et c'est assez magnifique. Voilà.
Et ben voilà. Et ben c'est fini. Merci de nous avoir podcasté. Abonnez-vous sur iTunes, ça fait du bien à nos statistiques et puis ça nous fait plaisir. Lisez-nous chaque semaine dans le Focus Vif puisque nous sommes tous journalistes de presse écrite à la base. Merci Nicolas, merci Isaline, merci Laurent, merci Guy.
T'étais bien Guy.
Oui, j'étais très bien. Ah, non,
ça va, je vous ai plu, je peux revenir en deuxième.
Oui, oui. Mais tu n'es pas payé, hein. Je sais pas si tu es au courant. Bon, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.
Salut.